D'habitude.
Ben, bienvenue à Ici Première, Magali Saint-Vincent.
Merci.
Donc, habituellement, c'est quoi? Habituellement, dans d'excellents balados filmés sur scène, à la télévision, comédienne, humoriste, femme brillante.
Je suis vraiment contente
que vous soyez là. Olivier Niquet, je vous trouve brillant aussi. C'est juste que je commence à vous tenir pour acquis.
c'est
pas grand-chose. Vous étiez à un mariage rempli de vedettes en fin de semaine.
Ben, rempli de vedettes.
J'ai vu des photos de Gilles Lépine Blondeau et de Ludovic Bourdage sur Instagram.
Ludovic Bourdage, non?
Non, oui. Mais il a mis une photo de vous, non?
J'ai manqué ça.
Je pense, non?
Moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas.
C'est peut-être moi qui
mélange. Il y avait Colin Boudria, par contre.
Ah, c'est peut-être Colin Boudria, pourtant.
Mais c'est vraiment de la belle qualité de vedette.
Oh, c'est dur.
Ben oui.
En plus.
Vous êtes comment dans un mariage, Olivier?
Ah, moi, je me dandine un peu.
Vous dansez?
Ben, je bouge.
Ça m'étonne.
Je bouge un peu.
Est-ce que c'est pour éviter de parler aux gens que vous dandinez?
Non. Ben, avec la musique dans le tapis, de toute façon, c'est impossible de parler aux gens. Ça, c'est un reproche que j'ai envers les DJ, à part leur playlist qui est un peu... En tout cas. mais j'aime ça, les mariages. J'ai été touché, pour vrai. J'ai eu des émotions. C'était un très beau mariage, très agréable. J'ai découvert des choses sur notre collègue Oliver, parce qu'en parlant à tout le monde, on apprend des choses. On va pouvoir le stalker avec ça. Pas le stalker, mais le faire chanter.
Dans les deux cas, c'est problématique.
J'avoue. Mais non, c'est très touchant. Puis c'est une belle gang. C'est le fun.
Moi, en fin de semaine, parce qu'évidemment, je ne le connais pas, Oliver. On s'est échangé trois mots. Je n'étais pas à son mariage. Mais je lisais sur le mariage, par exemple.
Ah
parce
oui?
que dans The Atlantic, dans le magazine, l'édition de septembre, il y a un gros article sur les bienfaits du mariage. Ça donne envie de se marier parce que, étonnamment, ça va de mieux en mieux, le mariage aux États-Unis, en tout cas. Il y a un gros sondage qui a été mené l'année passée qui avance que les personnes mariées qui ont entre 25 et 55 ans ont deux fois plus de chances d'être très satisfaites de leur vie que les personnes non mariées. Et les personnes mariées vivent plus longtemps que les célibataires. Donc, moi, je voulais dire bravo à notre collègue Oliver d'avoir choisi le bonheur et la vieillesse. C'est comme Magali, vous avez l'air dégoûtée par le mariage.
Oui, vraiment. Moi, je vois juste les dettes. Là. Après ça, il faut que tu rembourses tes dettes de mariage. Il me semble qu'il n'y a rien d'heureux là-dedans. Là.
Ben...
C'est moi qui est juste pauvre?
Que... Mais moi, je suis convaincue qu'il y a moyen de se marier là, à petit prix.
Oui, probablement, mais ça m'intéresse pas. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que si je me marie, c'est comme on met 80 000 puis let's go, tu sais. J'ai un problème. Ouais.
À mon tour, d'être complètement dégoûtée.
Sinon... Moi, je trouve ça beau quand même l'idée du mariage, mais ça serait vraiment un cauchemar pour moi me marier. Là, ça a toujours
Pourquoi?
Été ça. J'ai toujours dit à ma blonde qu'on n'allait pas se marier parce que je détesterais être le centre d'attention comme
c'est
ça,
beaucoup d'attention.
Avec le monde qui cogne sur la restifie de.
Pour un petit bisou.
C'est vraiment gossant, c'est lourd.
C'est vrai.
C'est un léger manque de consentement. Claquer sur le petit verre pour que le monde s'embrasse, non?
C'est un point intéressant. J'imagine qu'on a le droit de refuser d'embrasser son nouvel époux.
Ça fait un fret.
Au besoin. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce que ça fait un fret plus ou moins que l'animateur de mariage qui nous fait faire des petits jeux, de toute façon?
Ah oui, non,
parce que
mais
moi, ça, c'est la partie où j'ai plus de difficultés dans les mariages. Ah, il y a Kim Lévesque, Lisotte, qui entre en studio. On nous dit qu'elle était prise dans le trafic. Moi, je trouve que le pont, il est quand même proche, par exemple.
Oui, il est quand même proche, mais c'est à la sortie du pont là, que c'est bloqué. Là. On va faire la circulation pour tout le monde qui nous écoute en rattrapage. La sortie du pont Jean-Cartier, ça va pas du tout. Il y a comme des nouvelles mesures de sécurité Radio-Canada.
Oui, effectivement.
Je pensais que le premier ministre était là, mais non.
Non. Et je me suis informée et on m'a dit que c'était parce qu'on voulait être à jour avec les nouvelles mesures de sécurité en vogue partout dans le monde. Donc, c'est pas parce que Radio-Canada est particulièrement ciblé qu'il y a maintenant de grandes normes de sécurité pour entrer.
Il n'y a pas eu de menace.
Mais Kim, je suis contente que vous soyez à temps pour le prologue parce que je voulais vous parler de quelque chose.
Quoi?
Très personnellement, moi, je suis une grande fan d'Avant le crash.
Ah, je pensais que tu voulais me parler de Bad Bunny, mais c'est correct.
Non! Non, Avant le crash.
Oui.
Parce que là, dans cette troisième saison, je remarque que vos personnages font beaucoup l'amour, contrairement aux jeunes qui le font de moins en moins. Olivier, arrêtez de vouloir parler de ça.
On est déjà en train de dire sexe.
Ça suffit! Donc, pourquoi est-ce que vos personnages ont autant de sexe, Kim? Est-ce que c'est pour nous dire que le pouvoir, ça, c'est bon pour la libido, le contrôle?
Non, c'est souvent pour montrer, mais ça c'était déjà présent dans la saison 1, c'était encore plus marqué dans la saison 1 parce qu'il y avait une dynamique de pouvoir dans un couple qui, au travail, quand il y en avait un qui avait le dessus sur l'autre au travail, au lit, c'était le contraire. Avec oui. François puis Evelyne. Evelyne dominait François au lit, mais il était son supérieur au travail. Puis quand ça a changé au travail, ça s'est changé dans leur chambre à coucher. Mais je pense que ça vient quand on fait la construction des personnages, on se demande ça va être quoi leur sexualité. Là, c'était pour marquer la différence de François avec Evelyne. Là, maintenant, il fait du edging. Il fait du edging avec
Sabrina.
Pour montrer comment...
De vivre la jouissance.
Parce que je trouve que la sexualité, ça peut changer par rapport à c'est plus un truc de couple ou de partenaire, en fait.
Oui.
Donc, c'est pour montrer qu'est-ce que ça change dans l'intimité, dans... Je pense qu'on fait pas l'amour pareil avec les gens avec qui on rencontre.
Oui. Intéressant.
Je pense que les relations sexuelles, ils s'adaptent par rapport à la dynamique de pouvoir entre deux personnes.
Mmh.
Puis là, vu que, tu sais, c'était pour marquer des grands changements. François, il est rendu ailleurs. Il est vraiment plus... Il veut plus se faire dominer. Il a eu un rebirth. Il est allé en thérapie. Il est avec une fille qui fait de la méditation. Donc là, je voulais montrer, là... Le sexe lotus. Mais sais-tu quoi? C'est que quand j'écris une scène de sexe, il y a genre 3 lignes. Pour moi, puis après, avant ça, il y a 54 pages. J'ai l'impression que c'est rien, mais quand on arrive tout nu à...
On parle de sexualité. Oui. Vous rattraperez le prologue après l'émission 100% viril de vendredi dernier. On se reprend, hein, Olivier?
Ben oui.
Ben, vous entendrez donc aujourd'hui les voix parfaitement perchées de Kim Lévesque-Lisotte, Magali Saint-Vincent et moi-même, Rosemary Autonne-Témorin. Bienvenue à La Journée est encore jeune.
Je me sens bien en rose en plus pour l'occasion.
Ah, et là, je veux juste rassurer tout le monde, là, je vais nommer chaque personne qui parle, comme ça, personne ne va être mélangé. Parce que comme je l'ai dit, un réalisateur radio au début de ma carrière, quand il y a trop de filles en studio, on ne sait pas qui parle.
Ah, c'est pas que
ça sonne toutes pareilles, les voix aiguës. Alors, à vous, Olivier.
Merci.
Oh, c'est un iPad
Olivier,
qui fonctionne pas.
Nickel. 24/7.
Bien, c'est difficile de ne pas vous parler de politique municipale par les temps qui courent. Ça n'arrête plus, cette campagne-là. D'abord, à Sutton, plusieurs enjeux sont au centre de la campagne, comme l'a rappelé Raymond Filion à LCN.
Taxes municipales, crise du logement, adaptation au changement climatique. Partout au Québec, ces jours-ci, il y a des priorités qui s'imposent dans la campagne municipale. Eh bien, à Sutton, en Estrie, il faut ajouter à cette liste un enjeu qui prend de l'ampleur, soit l'accès au pickleball.
Je supporte le pickleball. Voilà le slogan de campagne du candidat à titre de conseiller municipal, Éric Pessard.
Ouais, je supporte le pickleball. C'est un peu le I have a dream des retraités actifs. Je vais peut-être semer la controverse. J'ai commencé moi-même à pratiquer le pickleball dans les dernières semaines. Alors, je pense que ce gars-là, c'est un héros moderne. À Saguenay, maintenant, c'est le candidat Luc Boivin, le monsieur du fromage du même nom, qui a fait jaser pendant un débat organisé par la Chambre de commerce. Il réagissait à la proposition d'utiliser des conteneurs pour loger des sans-abri.
2 600 $ par itinérant. On est aussi bien nous envoyer dans le sud, ça va coûter moins cher. Écoutez, puis le problème des itinérants, là, c'est des gens qui vivent en marge de la société qui ne veulent pas se faire aider. La première étape, c'est qu'il faut qu'il y ait un traitement adapté.
Oui, un traitement adapté qui ne serait pas de les envoyer au Club Med. De toute façon, je ne suis pas sûr que de confronter les itinérants à la dure réalité de devoir se lever aux petites heures du matin pour aller réserver sa chaise longue avec sa serviette, ça les aidera à faire plus confiance au système. Il s'est excusé, M. Boivin. Il dit « Je tiens à m'excuser si ça a pu mal paraître ». C'est le moins qu'on puisse dire. Le candidat à la mairie de Montréal, Gilbert Thibodeau, aussi a parlé d'itinérance dans les derniers jours. Lui, entre autres, il a fait ça au balado « Sur ma chaise », dont le concept est assez révolutionnaire. C'est une entrevue en se faisant couper les cheveux. Pas toujours bon côté son, par contre.
J'ai pas l'idée.
Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à court terme au lieu de qu'une pendant 4, 5, 6 mois avec de l'aide de la Ville de Montréal pendant de prendre le maximum d'itinérants?
Ouais, on est quand même loin du ASMR ici. Peut-être on est rendu loin d'un concept de balado. Mais bref, il veut envoyer les itinérants dans les églises, mais une fois ses cheveux bien secs, il a présenté sa théorie à leur sujet.
Des fois, je me pose la question, coudonc, c'est-tu une industrie, la pauvreté? Y a-tu quelqu'un qui fait de l'argent avec ça? C'est 400 millions par année, là. Fait que là, y a-tu quelqu'un qui fait de l'argent et qui dit, regarde, tourner à l'entour du pot, mais jamais régler le problème.
Oui, oui, entre deux coups de ciseaux, il a percé le secret le mieux gardé du capitalisme mondial, un puissant lobby des pauvres qui nous gardent dans la misère. Donc, les directeurs d'organismes communautaires qui roulent en Lamborghini passent leur week-end sur leur yacht, sont probablement soudoyés par les fabricants de tentes et les producteurs de soupe en canne pour préserver le lucratif marché des itinérants. Monsieur Thibodeau, il est très présent dans ce genre de médias alternatifs-là où il peut s'exprimer, exprimer librement ses théories un peu douteuses. Il est aussi allé au balado d'Amélie Paul, qui a connu ses heures de gloire pendant la fausse pandémie. On a dit d'elle dans Le Devoir qu'elle affirme en gros que les événements de l'actualité sociopolitique sont le résultat de forces occultes planifiées et dissimulées au profit d'un petit groupe de manipulateurs surpuissants. Elle fait aussi beaucoup de place aux enseignements ésotériques. C'était le troisième passage de M. Thibodeau à son émission et il va là parce qu'il sait, lui, depuis longtemps que les médias sociaux ont supplanté les vrais médias.
Les médias traditionnels s'en aperçoivent. Les médias sociaux prennent de l'ampleur.
Okay.
Je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, au début, je parle de ceux qui ont connu ça là, au début des années 90. Ce n'est pas tout le monde qui connaît Facebook depuis 1991. Là. Ça fait longtemps que ça existe. Mais tout le monde a commencé à prendre du pouvoir avec Facebook, Twitter qui est apparu aussi, puis d'autres. Et les médias traditionnels ont ri de ça.
Oui, le fondateur de Radio-Canada, Jacques Cartier, avait sûrement pas vu venir qu'un jour les grands médias allaient être moins fiables que les réseaux sociaux. Donc, c'est ça, le gars est tellement avant-gardiste qu'il a utilisé Facebook avant même son invention. Mm-hmm. Sa prochaine promesse sera peut-être d'installer des bornes de recharge pour sa DeLorean. Il y a un autre candidat à Montréal dont on parle pas beaucoup, c'est Jean-François Cacou. Lui, c'est un ancien DG de la ville de Percé, entre autres. Et il y a une solution pour le stationnement à Montréal, comme il l'a expliqué dans une vidéo où il spinne beaucoup sur lui-même.
Tu auras moins de contraventions. Tu vas arrêter de tourner en rond pendant des dizaines de minutes. Et on va tout faire pour que tu ne rates plus de rendez-vous parce que tu n'as pas trouvé de place. On va installer des tours de stationnement près du centre-ville et des centres d'achat avec des navettes directes vers les rues principales.
Hein, ça va nous faire un beau skyline,
c'est
ça, après la vue sur le Mont-Royal, la vue sur un Buick Régal. À Québec, les candidats anti-tramway ont fait semblant de vouloir s'allier, mais personne ne veut céder sa place. D'abord, Sam Hamad.
C'est clair et net. Si on regarde l'état sur le terrain, un vote pour M. Lachance aujourd'hui, il le sait en passant. Il le sait, il n'est pas niaiseux, il le sait. Un vote pour M. Lachance, c'est un vote pour Marchand.
Oui, sauf qu'il pourra peut-être dire que M. Lachance est un petit peu niaiseux, finalement, parce que voici la réponse de ce dernier.
M. Hamad a mentionné aussi qu'un vote pour Lachance est un vote pour Marchand.
Ben j'ai là exactement la même chose à dire. Un vote pour Sam Hamad, c'est un vote pour Bruno Marchand.
Donc, voter Lachance, c'est voter Marchand. Voter Hamad, c'est voter Marchand. Voter Marchand, c'est aussi voter Marchand. Alors, si le maire n'est pas élu le 2 novembre, je vais m'étouffer dans mon mimosa. Enfin, je vous parle de Louisville, où le maire Yvon Deshaies fait face à des adversaires qui le stressent, comme il l'a dit à LCN.
Oui, ça me stresse, mais je travaille fort. Je n'ai jamais changé, moi. Je suis le gars le travailleur. Je suis le gars qui se donne beaucoup. Alors, écoutez, les gens voteront, hein, la population vont me parler. Puis bien sûr, des fois, je déborde un peu, j'aime déborder. Quand j'ai de quoi dire, je le dis, puis je m'en encore le dire, malheureusement.
Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est un beau moment de lucidité de la part de ce maire qui en offre pas des tonnes. Donc, j'aime ça déborder, dit-il, ce qu'il est justement allé faire à Radio X, où il est allé parler de ses adversaires qui le stressent.
J'en ai deux. J'en ai un qui était un peu, si vous me permettez, un petit peu malade mental.
Présent. C'est qui que vous qualifiez de malade mental?
Monsieur Daniel Ringuette.
Ben voyons.
Vous dites ça, c'est de la haine.
Ben oui, mais que voulez-vous? Il parle de moi méchamment et il rentre dans un magasin, il se met à crier. Y a-tu du monde de Louisville ici? Madame, les gens, ils n'en parlent pas. Il faut abattre le maire, il faut battre le maire, ça n'a pas de bon sens. Il crie ça.
Eh oui, un malade manteau qui crie après le monde chez Rossi contre un monsieur qui aime ça quand ça déborde. Les citoyens de Louisville seront bien servis.
Wow. Ah, c'est extraordinaire ce que vous trouvez, Olivier. Il n'y a jamais un moment dans ma semaine où je dis aussi souvent, ben voyons. C'est tout ce qui me vient.
C'est plus facile qu'on pense, malheureusement.
Avec ou sans son Nobel, Donald Trump veut la paix au Moyen-Orient. En tout cas, c'est ce qu'il dit, mais est-ce ce qu'il fait? On va le demander au président de l'Observatoire sur les États-Unis et fondateur de la chaire Raoul Dandurand, Charles-Philippe David. Charles-Philippe, bonjour.
Bonjour, Rosémé.
Je disais d'entrée de jeu que la paix est en marche, mais c'est loin d'être fait. On le sait, on amorce maintenant une deuxième phase de négociation. Comment ça s'annonce? Qu'est-ce qui risque d'accrocher? Prenez-moi par la main.
Dans le monde alternatif de Donald Trump, tout est possible. Et j'ai l'impression, quand même hier, de m'être dit, dans ce monde alternatif, quand je l'écoute, mon Dieu, la paix va revenir sur Terre, tout va revenir dans l'ordre, on va pouvoir respirer par le nez et... Et je ne sais pas, être optimiste.
OK, bon. Mais l'êtes-vous vraiment ou c'est du sarcasme? Là, je ne vous vois pas, c'est difficile à dire.
ben, je vais vous décevoir, les amis, parce que je suis malheureusement pas aussi optimiste que lui. Et je pense que c'est comme un match, on va dire, de baseball. Il a remporté la première manche parce que il a eu, il a gagné, clairement, faut lui donner ça, mais aussi un peu de chance, faut-il l'admettre. Il a eu la chance que Netanyahou fasse une gaffe monumentale en attaquant un autre allié des États-Unis qui s'appelle le Qatar, et tout a basculé à partir du 9 septembre. Les pressions de Trump ont porté fruit. Et heureusement, évidemment, que Netanyahou a dit oui. Et attendez, c'est pas fini. Alors, ce n'est que la première manche. Trois retraits, c'est magnifique. Mais il en reste quoi? Au moins 8, puis on y risque d'aller en surtemps parce que son plan a 20 points. Alors, c'est un peu comme si vous aviez 20 manches. On en a gagné une, il en reste 19.
Je comprends rien au baseball, mais je pense que je vous suis. Non, mais
c'est vrai que depuis que les expos sont partis, on a moins la chance d'aller voir des matchs.
Oui, c'est vraiment une question d'expo. L'accord a été négocié notamment par l'entremise de Jared Kushner, qui est le gendre de Trump, et par Steve Witkoff, donc par deux richissimes promoteurs immobiliers. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur la façon de faire de la diplomatie aujourd'hui? Est-ce que Mark Carney devrait envoyer Luc Poirier mettre fin à la guerre en Ukraine? Est-ce que c'est par ces messieurs-là que ça passe maintenant?
J'ai pas pensé à celle-là. Mais je pense que vous avez absolument raison. Il faut savoir que les intérêts économiques de l'organisation Trump sont énormes au Proche-Orient. Et ce n'est pas pour rien que Jared Kushner, déjà dans le premier mandat de Trump, avait réussi à faire signer plusieurs accords entre des pays du Golfe et Israël. La promotion de toutes sortes de projets, par exemple, un immense terrain de golf, si cela se peut dans le désert, imaginez, en plein été, du Qatar, où Kushner est activement impliqué pour sa mise en œuvre. Quel hasard quand même, ou quelle coïncidence, que les États-Unis, ou Trump en tout cas, aiment bien le Qatar. Encore là, c'est une erreur de la part de Netanyahou d'avoir touché le Qatar. Oui, les intérêts sont là. Déjà, de toute façon, dans la vision immobilière de Trump, souvenez-vous qu'en février, il avait eu l'odieux de dire qu'il allait transformer Gaza en Riviera. Je ne sais pas comment l'appeler, du Proche-Orient, à défaut de dire une Riviera de la Côte d'Azur. Et ça avait choqué tellement de gens. Là, au moins, dans le plan, qui n'est pas toujours très clair, qui ne va pas dans les détails, il n'est plus fait mention de l'expulsion. Motivée, là, par des puissances étrangères, d'une population qui vit là quand même. Et donc, c'est. Tout ça est dans le flou encore et on verra, comme je l'ai dit, dans les prochaines manches, comment ça va se passer, mais pouf! Dire que le diable est dans le détail, là, c'est un euphémisme.
Puis il faut ajouter que la paix, ça n'a pas changé M. Trump encore. On a toujours affaire au bon vieux Donald. Cette nuit, il a publié un message sur Truth Social. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est à propos de la couverture du Time Magazine qu'il met en scène. Et la photo... À sa défense, elle est spéciale. Elle est prise en contre-plongée, ce qui l'haït. Puis là, il nous dit qu'on voit à peine ses cheveux. Il a qualifié la photo de peut-être la pire de tous les temps, mais au moins, il a trouvé l'article relativement bon. Êtes-vous surpris que Donald Trump ait le temps de s'exprimer là-dessus tout en mettant fin à toutes les guerres comme il le prétend?
Au contraire, c'est son gagne-pain quotidien. C'est son ADN de tous les jours. De scruter et de se faire dire, notamment par Caroline Lewitt, sa porte-parole, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui est publié à son sujet, dans les médias surtout qu'il n'aime pas, et parfois Time fait partie de ceux-là. C'est pas la première couverture d'ailleurs de Time sur Trump, ils en ont fait une habitude au cours des années, pas seulement du second mandat mais du premier mandat, et c'est pas toujours glorieux.
C'est peut-être la moins flatteuse, pour vrai.
Je suis pas surpris du tout. Une chose importante aussi à dire, c'est que Trump est un décideur terriblement distrait et qui s'auto-distrait. S'il ne maintient pas le focus et son attention, ce dont je doute, sur son plan, il passe à autre chose. Je pense que le plan est peut-être pas mort-né, mais en tout cas va subir des avaries sérieuses. Et remarquez déjà que tout le monde se présente comme Zelensky à la porte de Trump pour dire « Et moi, est-ce que je peux avoir un accord comme ça?
Mm-hmm. »
Et donc, moi, je soupçonne que Trump va vouloir vite gagner toutes sortes de choses comme ça pour bien le faire paraître partout. Mais je note une contradiction épouvantable dans tout ça, et moi, ça me fait mal au cœur, tout ça. Là, c'est pas drôle, les amis, c'est pas drôle dans le cadre de l'émission, ce que je vais dire. L'homme de la paix au Moyen-Orient n'est pas capable de faire la paix dans son pays.
Mm-hmm.
Trouvez pas que c'est quand même fantastique qu'il soit capable de réunir autour de la table des gens qui sont des adversaires déclarés, mm-hmm. mais qu'il n'est pas capable de mettre fin à la fermeture de son propre gouvernement en réunissant autour de la table démocrates et républicains pour s'entendre. L'homme de la paix, en fait, n'aime pas que la paix se produise aux États-Unis parce qu'il veut les pleins pouvoirs, il abuse du pouvoir et profite de la division. Donc, c'est très contradictoire.
Merci, Charles-Philippe David, de nous faire réfléchir. Et lâchez pas, hein?
On lâche pas. On n'a pas le choix, go, mais c'est dur parfois.
Go. Bonne journée, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous.
Merci à vous tous.
Tout le monde parlait en même temps et vous en avez manqué des bouts? Rattrapez l'émission au ici.radio-canada.ca/lajournée ou sur l'application Radio-Canada Audio.
C'est drôle. Vous savez ce qui manquait à cette émission? Il manquait Magali Saint-Vincent.
Ben, définitivement.
Bienvenue, Magali. Vous allez entamer votre collaboration avec une chronique techno. Moi, ça m'a surprise.
Oui, absolument. Je voulais vous parler, en fait, la semaine passée, le Devoir a effectué une refonte totale de son site web et de ses plateformes. Puis je trouve ça important de le souligner parce qu'une refonte numérique qui ne se retrouvera pas en commission d'enquête en 2025, ça se fête, n'est-ce pas? Chandard à la commission Galant, en passant, c'est mon OD à moi. J'avais assez hâte que Karl Malenfant rentre dans la maison des gars. Puis je l'imaginais pas comme ça, moi, Karl Malenfant. On dirait que je trouve que, je sais pas, il y a comme une petite énergie d'un collègue gossant qui veut absolument prendre une photo avec tout le monde dans le photobooth au party de Noël.
Ouais.
Il fait un peu genre comité social, j'ai fait des margaritas à tout le monde, j'ai organisé un moitié-moitié, mais j'ai perdu la moitié. Le nouveau site du Devoir, il est beau. Mais il n'est pas parfait.
Okay.
Il y a beaucoup de publicité. Le site est long à télécharger. Puis même si j'ai un bon antivirus, je vois encore les articles de Christian Rioux. C'est un beau site, mais malheureusement, ce qui m'excite le plus de la refonte du Devoir, c'est pas la facilité à lire de l'info crédible du bout des doigts, c'est qu'ils ont augmenté l'offre de jeux. Oui, j'ai tellement demandé au Père Noël un Wordle québécois. Vous savez, c'est quoi un Wordle?
Oui,
c'est le jeu exclusif au New York Times qui augmentait le clivage entre l'élite intellectuelle qui nous mettait en story le résultat avec une phrase genre « ceux qui savent, savent », puis là, nous autres, la plèbe, on comprenait rien devant cette grille de lettres en désordre. Et bien maintenant, on peut jouer, j'ai été entendue. Je vais pouvoir mettre aussi ma grille de Wordle en story en attendant l'approbation de genre Marie-Louise Arsenault. Je trouve ça dommage que ce soit le divertissement qui va me mener à consulter ma dose quotidienne de bon journalisme, mais je pense que les médias sont rendus là pour nous garder sur leur plateforme. Okay? Moi, ça me prend un système d'émulation. Puis c'est pas à cause de l'algorithme ou de l'intelligence artificielle qui me garde captive avec des vidéos de Pandorou qui chantent du Jordi. C'est parce que je suis de la génération du magazine cool, moi. Mm. Tu sais, ma relation avec les médias imprimés, surtout, c'est que je vais l'acheter, ton magazine. Je vais la consulter, l'info. Mais mieux de venir avec un gloss puis un porte-clés d'Aurélie Laflamme. Puis après, m'être badigeonnée les gentives, là, je vais lire ton enquête, tu sais, c'est parce que tout le temps ça qui se passait, là, tu sais, j'avais du fun au sommet de mon privilège. Je faisais un quiz, quel personnage de Ramdam es-tu? Puis là, je tournais la page, puis le fun s'arrêtait en lisant un article sur comment une jeune fille de mon âge ailleurs dans le monde n'avait pas de tampon dans son village pour aller à l'école. Bon. C'était triste. C'était tout le temps ça, à vous.
Oui, l'équilibre était
j'ai
là.
Pas la ref.
C'est pas grave. Bon, un homme dans l'émission. C'est les gadgets puis les bébelles qui soutiennent notre journalisme aujourd'hui. T'sais, moi, je me suis abonnée au New Yorker, tout le monde, okay? 58$ US par année. Des analyses approfondies sur l'intersectionnalité entre la montée du féminisme et le taux alarmant de la natalité en Corée. Je n'ai lu l'article qui dit, qui m'a pris 2 heures avec des mots en anglais compliqués, genre « Dow Dodie ». Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu, l'article, parce que mon abonnement restaurant au New Yorker, il venait avec un tote bag. Ah. Un beau tote bag, un objet qui crie au reste du monde, je suis meilleur que vous tous.
Absolument.
Alors, c'est en performant la connaissance qu'on aura des gens informés en 2025 et je recommande au devoir d'envoyer des laboubous avec leur adhésion.
Quelle belle idée! Bravo et bravo. Bienvenue!
Hey, un an,
oui!
Écrivez-nous sur la bulle conversationnelle de l'application Radio-Canada Audio. On va peut-être vous lire.
Kim, pendant que Magali lisait son The New Yorker, vous êtes allée aux pommes?
Je suis allée aux pommes en fin de semaine. Mais là, il n'y a personne de surpris parce que je sais que tout le monde me stalk sur Instagram. Allô, allô tout le monde. Vous le savez. Je suis allée aux pommes avec toute ma famille parce que oui, j'ai réussi à les convaincre qu'on avait tous besoin d'un sac de 15 livres de Lobo pour être plus heureux dans la vie. Et je suis convaincue moi-même que moi aussi, faire de la croustade, j'aime ça. Déjà, j'ai eu un petit contact avec les tradwives il y a une semaine.
Oui!
Puis, ça se voit déjà. J'ai mis ma plus belle tuque, j'ai pris des photos, j'ai couru dans le verger en chantant parce que je suis un esprit libre. Je choisis ma vie, je choisis mes pommes. Je suis une femme libre indépendante avec une chemise à carreaux et des bottillons de femme blanche qui boit des pumpkin latte même quand il fait 35 degrés. Je vais là où le vent me porte, sans règles, sans limites. Je choisis mes pommes sans me justifier. Une empire par-ci, une gala par-là. Oh non, pas de McIntosh. Franchement, trop prévisible. Alors imaginez, mais imaginez maintenant que le gouvernement décide de protéger votre droit de manger des pommes. Hein? Imaginez qu'on se réveille un matin, on se fait annoncer l'État protège la liberté des citoyens de manger des pommes et d'avoir du plaisir à se faire un carrousel Instagram de 17 photos par de filles qui croquent dans une pomme dans une échelle, eh bien, vous allez me dire que ce serait une loi qui vient d'une pression des blondes d'humoristes, plus capables d'entendre les numbers sur leur chum qui aiment pas aller aux pommes. Mais non, c'est que le ministre de la Justice se serait décidé un matin que nous, les femmes, on a le droit d'aimer aller aux pommes et choisir nos pommes. Sauf que là, boum, ça vient de créer une catégorie pour les pommes. Puis dès qu'il y a une loi, personne ne peut la contester. Un juge anti-pomme pourrait dire, OK, mais maximum 2 pommes par semaine, seulement des Cortland. Ah, il faut une prescription médicale, il faut attendre 48 heures après avoir demandé ta pomme. Là, vous voyez où je vais. Là, vous êtes dit qu'il m'est rendu légère. Elle va nous faire une chronique sur les pommes. Ben, rendu le fun, non. Hein, normal. Ben non, un sujet lourd de féministe woke lourde qui fait faire des migraines à Cube Radio. Yeah. Et oui, cette semaine, le gouvernement Legault a déposé son projet de constitution du Québec. 40 pages pour redéfinir qui on est, qu'est-ce qu'on protège, comment on s'appelle. On dit plus conseiller exécutif, on dit conseil des ministres. C'est la révolution. Et attention, dans l'article 29, Simon-Jolin Barrette écrit « L'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Là, à première vue, on applaudit. On dit « Ben voyons, il est-tu rendu wow? Mais qu'il faut faire? On sort le champagne? » Et alors donc, mais sauf qu'il y a 400 médecins et le barreau du Québec qui ont dit « Non, on ne touche pas à ça ». Ah! C'est quoi leur problème? Ils n'aiment pas les femmes? C'est ça qu'on se demande, parce qu'actuellement, l'avortement au Canada, c'est exactement comme les pommes. Ah, je l'ai-tu donné?
Oh, wow!
Il n'y a pas de loi là-dessus. C'est juste un soin de santé normal, comme une vasectomie, une opération au genou, une colonoscopie. T'avais pas eu des colonoscopies, Olivier, l'année passée?
Non, gastroscopie. C'est
pas de justification. Tu peux avoir une gastroscopie à l'infini. Il n'y a donc pas de limite, pas de comité qui décide si ton motif est assez valable, Olivier. Tu veux un avortement, tu l'as. Le Canada, c'est le seul pays occidental avec cette liberté totale. On est un modèle. L'absence de loi, c'est notre meilleure protection. Parce que dès que tu mets ça devant une loi pour protéger, tu ouvres la porte aux tribunaux. Des juges conservateurs qui rêvent de pouvoir se pencher sur cette loi-là, ils pourraient limiter le nombre de semaines, exiger des consultations obligatoires, réduire le point de service, imposer des délais d'attente. C'est comme si je revenais du verger pour demander « Pourquoi t'as pris 306 pommes? » T'es sûr, t'as bien réfléchi, tu vas pas le regretter. Ben, mais oui, mais c'est mes pommes, Magali, qu'est-ce que je te dis? Je sais que mon chum va répéter pendant 2 semaines, on a bien trop de pommes! ça fait 24 heures qu'il arrête pas de dire ça. Et oui, mais je sais qu'il va être tanné de ma croustade et de mes chaussons puis que la moitié des pommes vont finir dans le compost, mais c'est ma décision. Alors, le barreau l'a dit clairement, les risques surpassent les bénéfices. L'état actuel du droit protège adéquatement le droit des femmes. Il n'y a pas de vide juridique à combler. Martine Biron avait essayé ça en 2023. On lui a dit, fais pas ça. Là, Simon Jolin, il revient avec ça. Pourquoi? Pourtant, en plus, lui, il aime pas quand les juges rentrent dans la vie des gens. Mais là, ça serait correct. Alors, essayez de m'expliquer ça. Tu le sais, Simon, qu'on ne veut pas de juges dans nos vagins, à part certaines femmes qui sont attirées par le pouvoir des hommes, entogées avec des petits marteaux de bois. Et ça, on ne les juge pas.
C'est tellement valide.
Et c'est valide.
Oui.
Alors, tu veux protéger les femmes, Simon? Protège l'accès à l'avortement, pas le droit à l'accès. Quand on est, c'est beau avoir le droit, mais quand tu habites en Gaspésie, puis il faut que tu fasses 4 heures de char pour aller te faire avorter, ça sert à ça. C'est ça qui est ça. Alors, l'égalité salariale, les femmes ont gagné encore 88 cents de chaque dollar pour un homme. Olivier, comment vous êtes payé pour être ça en ce moment? Protéger aussi les femmes de la violence conjugale, de la pauvreté, des ressources, ça c'est protéger les femmes. Alors, sur ce, je vais retourner à mon tablier, faire mes strudels aux pommes avec ma crème glacée, parce que je vis dans un pays où j'ai le droit d'être une femme ambitieuse, indépendante, carriériste et aussi tradwife athée à temps partiel.
Oh, bravo, Kim!
Là, il te reste encore du temps. J'ai peut-être d'autres...
Non, peut-être qu'on pourrait inviter notre auditoire à partager avec vous ses meilleures recettes impliquant des pommes, étant donné que c'est votre mode de vie maintenant d'être au fourneau.
Oui, et c'est vrai.
D'ailleurs, on vous remercie pour ces paradoxes que vous êtes capable de mettre en lumière d'une manière si brillante.
On a trop de pommes.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Demain, c'est Jean-Sébastien Girard qui va prendre soin de vous. Avez-vous hâte de le retrouver, Olivier?
Non, il était dans le bureau tantôt, puis j'ai eu ma dose.
Vous parlez pas beaucoup, moi, je trouve.
Je travaille.